moi parce qu'on va aborder l'autre grosse actualité de la soirée, bien évidemment cette traque qui se poursuit pour tenter de retrouver Mohamed Amra et les assaillants du commando du fourgon de pénitentiaire de l'Eure qui s'apprête donc à passer une deuxième nuit de cavale. La traque a pris une dimension internationale aujourd'hui avec l'émission par Interpol d'une notice rouge. On va y revenir, mais avant ce document PFM TV, les mots poignants de Dominique Garcia, commandant de gendarmerie à la retraite. C'est le père d'un des deux agents pénitentiaires qui a été tué, Arnaud Garcia, 34 ans, qui allait devenir papa. Il a accepté de se confier.
C'était un bon vivant, à tout savoir qu'il était pur, bon vivant, il plaisantait, il avait beaucoup de camarades, il avait quelques passions, la moto, le foot, le harcèlement, vous pourrez le citer, et puis les copains, et puis il adorait sa femme, ils étaient ensemble depuis 11 ans, et puis ils se sont mariés il y a 3 ans, et puis Marie, son épouse, est enceinte de 5 mois.
Comment justement, Arnaud, il allait être papa, comment va son épouse ?
Je viens de la voir, c'est très très difficile pour elle, parce qu'elle se sent abandonnée, et puis elle essaie de faire face. Donc c'est pour ça que je la mets un peu à l'écart des médias, pour justement pour pas qu'elle soit trop trop perturbée. Mais tout ce que je fais, c'est en accord avec elle, donc il n'y a pas de problème.
Quelle relation vous entreteniez avec votre fils ? Vous parliez souvent ? Vous vous voyiez souvent ?
Avec mon fils, on habite à 800 mètres l'un de l'autre, donc on se voit facilement une à deux fois par semaine, des fois plus, ça dépend son travail. Mais là, depuis qu'il a intégré les extractions judiciaires, il a tous ses week-ends, donc je peux me permettre d'aller le voir plus souvent le week-end.
Quelles étaient les motivations de son engagement comme surveillant pénitentiaire, puis au service escorte judiciaire ?
Donc déjà, il avait choisi l'administration pénitentiaire parce qu'il adorait ça. Il s'y plantait, donc c'était sa troisième affectation, puisqu'il était à Grasse au départ. Après, il a été à Argentan, puis Caen. Et là, il a demandé, il voulait encore bouger avec avec une nouvelle équipe. Et c'est pour ça qu'il a fait le stage pour faire les extractions judiciaires, qu'il a réussi. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Donc le fait de travailler en extraction judiciaire, ça lui permettait d'avoir tous ses week-ends. Et quand il a su qu'il allait être papa, ça leur permettait d'avoir tous les week-ends pour profiter ensemble, quoi.
Comment vous avez appris la mort de votre fils ?
J'étais dans le Nord, et puis à notre maison. Et puis ma belle-fille m'appelle, elle me dit « Dominique, regardez à la télé, j'ai pas de nouvelles d'Arnaud. » Donc j'ai vu, je sais plus à quelle station, quelle chaîne, deux agents pénitentiaires décédés, trois blessés. J'ai appelé aussi sur son téléphone perso, pas de nouvelles. Donc j'ai décidé d'appeler directement à la direction générale, à Rennes, qui m'ont dit qu'ils allaient me rappeler dans les 10 minutes. Et j'ai eu monsieur Dupont-Moretti qui m'a confirmé l'impensable. J'avais une chance sur 5, voire une chance sur 3 que mon gamin soit dans les blessés. Et ça n'a pas été le cas. Donc, et l'intonation de le ministre était sans équivoque. Donc il était aussi pas gêné, mais bon, il était malheureux de me signaler ou de m'informer de la mort de mon fils.
Quels sont les sentiments qui vous passent par la tête depuis ? Qu'est-ce que vous ressentez depuis cette annonce d'hier ?
Alors j'ai eu plusieurs états colériques, à savoir que toute la nuit, j'ai pleuré, ce qui était un peu normal quand on n'a qu'un fils unique. De la colère, je suis passé un petit peu à la mise en confiance, à savoir que je fais confiance à la police, gendarmerie, qui traite l'enquête. Après, il y aura le stade judiciaire et on verra si dans cette dernière partie, on voit que ça vient, au moins que la justice soit faite, quoi. On verra.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis hier soir ?
Rien. J'ai pas dormi. J'ai ressassé. J'ai regardé toutes les photos de mon fils. C'est tout.
Vous pensez à quoi quand vous voyez ces photos ?
Sa vie et que je ne le verrai plus. Et maintenant, bon, il y a un petit être qui va arriver dans quelques mois. Donc, maintenant, mon espérance, c'est ça, quoi. Aider ma belle-fille et mon petit ou ma petite-fille à essayer de l'élever comme on a fait pour notre fils. C'est-à-dire dans la droiture, l'honnêteté, et puis dans... Et j'étais fier de mon fils. Il a tout réussi, donc il a réussi sa partie professionnelle, sa famille, et donc... Non,
S'il y avait un souvenir que vous deviez garder de lui, ce serait lequel? Un souvenir en
son humour, son humour. Son humour, son bien-être. Le noyau familial qu'il a su préserver et qu'il a rendu à sa famille. Maintenant, la preuve, puisque toutes les doléances, les collectes qu'on a fait, les collectes, toutes les réponses que j'ai, on voit que ça prouve que c'était un être... Un bon mec, quoi. Très très bon mec. J'aurais voulu le voir comme copain. C'est tout.
Vous vous posez encore des questions exactement sur ce qui s'est passé,
Non. Pour l'instant, je ne veux pas me poser de questions. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu une erreur de l'administration pénitentiaire d'avoir engagé une équipe de 5 agents pénitentiaires qui faisaient face à une attaque massive, un assassinat. À 5 ou 6 malfaiteurs durement armés qu'ils ont tués en lâcheté. Donc, ces gars-là méritent le maximum. Maintenant, le maximum, vous le connaissez, hein, c'est qu'une peine perpétuité ou à vie. C'est tout, quoi. C'est tout. Même... Moi, mon fils, il a pris pour perpète. Donc, on voit la différence, quand on verra le partage de la justice. Elle sera bien rendue quand le gars ou les gars seront interpellés, bien sûr.
Il est bouleversant ce témoignage, le témoignage de ce père qui a été recueilli par Milan Argelas et par Corentin Guistéo. Et ce que nous disait Milan Argelas tout à l'heure, c'est que le père lui a raconté que le matin même du transfert, il avait eu son fils au téléphone et que son fils avait eu des paroles tristement prémonitoires. Il lui a dit d'une façon complètement irrationnelle, je le sens pas. Je le sens pas, ce transfert. Ce qui nous frappe en l'entendant, c'est la dignité. C'est la dignité de cet homme.
La dignité, l'émotion, je crois que c'est un ancien gendarme, d'après ce que j'ai compris. Donc il sait ce que c'est, malheureusement aussi.
L'engagement.
Il a peut-être perdu des camarades, lui aussi, l'engagement au quotidien, le jour, la nuit. Et effectivement, derrière tout ça, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est touchant, et vous avez raison quand il dit « j'aurais voulu être un copain, ça aurait été
c'est un
super
bon
copain.
Mec, ça aurait c'est été un bon mec,
ça aurait
copain.
Été un super copain. Mmh. » Et c'est vrai que c'est la meilleure des offrandes qu'il peut faire. Après, je vais vous dire, on a passé les 7 derniers jours, alors moins de 7 jours, il faut relater un peu cette semaine, c'est-à-dire qu'on a 2 policiers qui sont encore entre la vie et la mort, du 13e arrondissement. Mmh. On a deux agents pénitentiaires qui sont décédés, 3 qui sont entre la vie et la mort, et aujourd'hui, on a encore perdu un gendarme. Donc je trouve que les forces de l'ordre payent un très lourd tribut pour nos concitoyens et pour l'État. Et ça, faut pas l'oublier, c'est ce service public-là, et c'est rare les métiers où on peut mettre en jeu notre vie au service des autres. Et ça, faut le souligner.
Il y a un hommage national qui sera rendu aux agents pénitentiaires, c'est ce qu'a dit cet après-midi Emmanuel Macron, et puis il y a bien évidemment une réponse de la justice qui est attendue, et d'abord retrouver Mohamed Amra, retrouver les fugitifs qui sont avec lui, dont on ignore d'ailleurs précisément exactement le nombre. Marine Mulcé, on vous retrouve en direct d'Evreux. Quelles sont ce soir les pistes qui sont explorées par les enquêteurs?
Eh bien, des moyens considérables sont mobilisés pour tenter depuis hier de retrouver l'homme qui est désormais l'homme le plus recherché de France. Alors cet après-midi, Interpol a annoncé avoir diffusé une notice rouge pour localiser Mohamed Amra à la demande des autorités françaises. Alors ces notices rouges, elles permettent de transmettre des avis de recherche internationaux émis par la justice d'un pays à l'encontre de suspects. En parallèle, l'enquête judiciaire se poursuit pour récolter des indices sur la scène du crime afin d'identifier les membres du commando dont l'identité est à l'heure actuelle encore inconnue, vous l'avez dit. Les caméras de vidéosurveillance sont également exploitées, ainsi que les images diffusées sur les réseaux sociaux par des témoins présents lors de l'attaque sur la scène criminelle du bornage téléphonique est réalisé, ainsi que de la géolocalisation pour savoir si des téléphones ont été déplacés lors de l'attaque ou après. Autre élément important pour l'enquête, les douilles qui ont été retrouvées sur la scène du crime qui pourraient servir à identifier les armes utilisées, voire les personnes à qui elles appartiennent. Pour traquer les fugitifs, des investigations sont également menées sur l'entourage de Mohamed Emra afin de récolter un faisceau d'indices pour pouvoir le localiser ainsi que ses complices. Et enfin, le profil du détenu est évidemment étudié. Sa cellule, dont il a essayé de scier les barreaux quelques jours avant son évasion, sera inspectée de fond en comble.
Merci Marie Mulcé avec Simon Pérez de Souza. Cette notice rouge qui a donc été émise par Interpol aujourd'hui. Guillaume, quelle est la probabilité qu'il soit à l'étranger ?
Faible parce que d'abord les faits ne sont pas produits en zone frontalière mais plutôt à l'intérieur du territoire. Le mode de déplacement c'est le véhicule terrestre, c'est pas le mode de déplacement le plus rapide pour franchir une frontière, c'est quand vous en êtes éloigné. Donc en termes de temps qui s'est écoulé entre la commission des faits, le déclenchement du plan épervier, même s'il y a des voitures relais, la probabilité qu'il y ait une frontière de franchie est faible. On peut pas l'exclure à 100% mais elle est faible. Donc la procédure de toute façon, c'est que on avise Interpol, parce que si les polices étrangères ont la connaissance ou ont une information ou voient des personnes suspectées passer, des membres du commando, etc., il faut qu'elles le signalent, voire que dans certains cas, elles réalisent l'interpellation elles-mêmes sur leur propre sol. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Maintenant, la recherche, elle est un peu en deux temps. Il y a l'opération de recherche stricto sensu avec ce plan épervier. Donc on a considéré qu'il y avait un périmètre de recherche, on y a concentré des moyens et on a regardé si ceux qu'on recherchait s'y trouver. La réponse est plutôt non. Et donc, au bout de 4 heures, ce plan est levé. Et ensuite, il y a l'enquête judiciaire. Et là, vous remontez en fait toutes les pistes à travers l'exploitation des traces, indices, témoignages. Enfin, c'est assez classique, mais efficace. Il n'y a aucun meurtrier de policiers, gendarmes, agents en uniforme qui ait réchappé de ce type d'investigation.
L'exploitation pour l'instant de ces éléments n'a pas permis d'identifier les autres fugitifs. Pour l'instant, le seul visage connu, c'est celui de Mohamed Amra.
Selon nos informations.
Selon les informations
Mais encore une fois, il faut rappeler qu'on retrouve tout le monde. On a retrouvé le commando d'action directe, on a retrouvé Yvan Colonna, on a retrouvé le meurtrier d'Éric Masson, on a retrouvé les frères Kouachi. Donc, on a retrouvé Redouane Faïd, on peut tous les faire. On a retrouvé Ferrara, on a retrouvé Manconi. On les a tous retrouvés, sans exception. Parce que vous avez contre vous des enquêteurs chevronnés et ils vous trouvent.
Et combien ont été donnés par du renseignement humain ? C'est-à-dire, on retrouve leurs anciens complices, leurs entourages, des gens qui n'ont pas été mêlés forcément à l'évasion, mais qui vont dire, selon moi, voilà. Quelle est la force du renseignement humain par rapport au renseignement technologique ?
Dans ceux qu'on a cités, Action Directe, ils ne sont pas donnés par leurs complices. C'est les renseignements généraux qui... Enfin, Bruno Pomard y était personnellement. qui donne l'information au RAID. Éric Masson, en fait, le meurtrier et son complice n'avaient jamais quitté Avignon. Mais là aussi, c'est un travail de police judiciaire, plus que véritablement... Vous êtes donné et après les autres qu'on a cités, les Kouachi, on les trouve dans le cadre d'une opération de recherche. Mais ça peut arriver effectivement que vous soyez balancé, comme on dit. Dans le cas de Redouane Faïd, déjà la probabilité qu'il y ait du renseignement, des tontons, comme on dit, des indics, c'est probable. C'est déjà beaucoup plus probable.
La plupart du temps, c'est quoi ? C'est l'erreur qui est commise par les fugitifs qui permet de...
Ce que dit très bien Guillaume, c'est qu'il faut, on marche sur deux jambes, comme on dit. Donc, il y a le côté investigation pure avec le renseignement, la téléphonie, les auditions qui sont faites et qui sont multiples, je peux vous assurer.
Elles ont commencé, déjà, les auditions?
Il y en a beaucoup qui doivent être faites, c'est
famille,
sûr.
Famille, entourage, co-détenus.
Et puis, tout ce qui est police technique scientifique, à partir de la scène de crime où on voit la voiture qui n'a pas réussi à brûler avec une grenade incendiaire physique, visiblement, et qui va permettre peut-être de relever des indices.
C'est déjà la première erreur qui a été commise.
Ça, c'est une erreur. Les douilles, effectivement, les véhicules qui ont été mis en relais, qu'on a retrouvé tout au long du trajet, qui peuvent donner aussi des indices de la direction qui a pu être prise. Bref, tout ça est étayé totalement par un nombre d'enquêteurs considérable. Et encore une fois, il faut marcher sur deux jambes. Première le côté investigation pure et le deuxième avec la police technique et scientifique.
Sur la zone de recherche, les derniers cas célèbres, Redouane Faïd, Salah Abdeslam, ils ont été retrouvés là où ils habitaient. Est-ce que c'est une zone de recherche privilégiée? On se focus d'abord sur la région d'origine des fugitifs parce qu'on dit que ce sera plus facile pour eux, logistiquement parlant, de se cacher.
Déjà, c'est dans un premier temps, effectivement, c'est commission des faits parce que tout de suite, il faut se planquer. En fait.
Bien sûr.
Donc il y a aussi une certaine logistique, on voit que c'est pas des amateurs non plus, qu'il y avait une organisation minutée avec sûrement une voiture véhicules. Qui suivait les fourgons et qui donnait en temps réel le cheminement, la progression, enfin bon voilà. Donc tout ça c'est une organisation, savoir comment ces équipes travaillent, encore une fois nous dans les directions centrales de la police judiciaire et les gendarmes, on a aussi, j'allais dire des dossiers sur certaines personnes. Donc on va voir comment ils travaillent, on va voir si avec d'autres pays étrangers on n'a pas vu des personnes qui arrivent de pays de l'Est par exemple, parce qu'on sait par exemple souvent on a des Albanais qui viennent faire des homicides, des Albanais commando arrivent, on leur donne les armes, ils font ce qu'ils ont à faire et après ils repartent chez eux tranquillement. Voilà, c'est ça en fait, c'est la mondialisation du crime quelque part. Et donc là on va voir si c'est des bandes locales, si c'est plutôt des mercenaires ou si c'est des personnes effectivement de mafia qui viennent de pays étrangers. Donc tout ça en fait, et puis les armes vont parler, le type d'armes, les voitures, elles ont été volées quelque part, donc il va falloir savoir où est-ce qu'elles ont été volées, s'il y avait des caméras aussi, regarder. Enfin voilà, il y a tout un système, c'est comme un puzzle. Vous partez dans différentes directions, vous fermez des portes et au fur et à mesure, vous avez, et puis il y a surtout aussi le renseignement humain, parce que oui, on a des tontons, des indiques, il y a aussi des gangs ou des rivaux qui vont voilà, c'est de les balancer parce que comme ça après ils peuvent récupérer aussi les terrains, les points de deal, etc.
Donc c'est aussi dès que vous bougez vous êtes vulnérable.
On est plus de 24 heures après la traque. Est-ce que là a priori ils ont trouvé leur planque ou est-ce que potentiellement ils peuvent être encore sur la route
d'ailleurs dans
plus vous bougez, plus vous êtes.
Le meurtrier d'Éric Masson et son complice, quand est-ce qu'ils sont pris? Pas dans le centre-ville d'Avignon où ils planquaient. Ils sont pris sur un péage à côté de Romoulin parce qu'ils sont en mouvement. Yvan Colonna, tant qu'il ne bouge pas de sa bergerie, il est compliqué à attraper. Ça dure quasiment 5 ans. Les Kouachi, quand est-ce qu'on les trouve? Quand ils sortent du bois, à Villers-Cotterêts. Au sens propre du terme, d'ailleurs. Ils étaient mis dans les bois. Bon, donc dès que vous bougez, vous êtes possiblement visible, donc vulnérable.
Il faut, et c'est la question aussi centrale en ce moment, une des questions centrales pour les enquêteurs, c'est de s'interroger sur le mobile. Pourquoi ce commando a pris tant de risques pour libérer cet individu? Et là, c'est le grand flou, parce que par rapport au CV qui est affiché, par rapport aux moyens qui sont mis en place, par rapport aux risques qui sont pris par ce commando, il y a quand même un gros point d'interrogation à ce niveau-là ce soir.
Je pense que l'enquête le déterminant, encore une fois, pour vous dire qu'on a des policiers de très haut niveau qui sont capables d'enquêter et encore une fois sur toutes ces grosses affaires, même en matière de terrorisme. Alors, on dit souvent, on a retrouvé les gars, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper? C'est pas possible, au même titre d'ailleurs que le terrorisme. C'est une fois que les actes sont commis, effectivement, qu'on a des indices et que là, on commence à tirer la ficelle et puis à trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir interpeller ces individus, que ce soit en matière de terrorisme comme en matière de grand banditisme.
Vous faites partie d'un réseau criminel, donc on voit bien aujourd'hui que les réseaux criminels, notamment qui tombent dans la drogue, alors il n'y a pas que la drogue, il y a la prostitution, les vols avec effraction, etc. Enfin bon, c'est protéiforme. En même temps, vous avez des crédits pratiquement illimités parce que vous recevez énormément d'argent. Vous avez une manne de ressources humaines presque illimitée parce que vous êtes dans des quartiers, d'ailleurs vous brûlez des écoles,
clair, pour organiser une opération de la sorte, c'est pas par loyauté.
Il peut y avoir de la loyauté parce que dans un réseau. Oui, c'est une bande.
Aller tuer des agents pénitentiaires en risquant d'être enfermé à vie en prison, on peut imaginer que ce soit uniquement de la loyauté.
On peut émettre que des hypothèses. Ça peut être parce que c'est un gang organisé et que c'est l'un des leurs et qu'ils veulent le récupérer. Ça peut être des rivaux qui lui en veulent et qui veulent le récupérer, mais pour de très mauvaises raisons.
Elle est possible, cette hypothèse qui a été émise par.
Personne ne peut l'exclure à ce stade. C'est pas la plus probable, mais on ne peut pas l'exclure de façon absolue. Et vous pouvez aussi avoir recours à des hommes de main. Oui. En tout cas, ce qui semble assez peu probable, c'est que vous ayez affaire à des amateurs. C'est pas le jeune tueur qu'on envoie sur son scooter qui est d'origine comorienne à Marseille. Enfin, je cite cet exemple parce que c'est un cas récent à qui on a confié une arme au dernier moment en disant va rafaler devant un commerce ou devant un bar à chicha parce qu'il y a telle ou telle personne qui est un rival sur un point de deal. Non, là vous avez des gens qui ont de l'équipement lourd et qui savent tirer.
Et la méthodologie, elle fait penser aux narcotrafiquants.
D'abord, il y a des armes qui sont pas des armes communes. La R15 avec un chargeur de grande capacité, ça veut dire qu'il a été modifié et c'est pas ce qu'on trouve classiquement sur du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Vous avez des tirs qui sont des tirs groupés. Quand on regarde les impacts sur le pare-brise conducteur du véhicule de tête, vous avez toutes les balles qui sont groupées. Donc vous avez quelqu'un qui s'est tiré. Enfin, je veux dire, le tir, il part pas vers le haut avec le recul de l'arme. Et vous avez pas de tir croisé. Là aussi, ça veut dire qu'il y a de la coordination, qu'il y a de l'expérience dans le maniement des armes, des tirs postés. Ça veut dire que vous avez aussi l'habitude de tirer, et pas au stand de tir exclusivement, en situation. Donc il y a quand même un niveau d'expérience qui interroge sur le profil de ceux qui ont fait ça.